Europe Soir, le 18-20, Julien Buchy.
18h45, la suite du débat des grandes voix du jeudi avec toujours à mes côtés Michel Cotta, Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion, Éric Scholl, directeur de la rédaction de L'Express. Alors on parle du Covid, faut-il alléger les restrictions? La question se pose. Pour l'instant, Olivier Véran a plutôt dit non. Il faut rester vigilant face à la circulation du virus. Mais c'est vrai que les chiffres reculent. Le Covid continue sa lente décrue aux alentours de 18 000 cas quotidiens, en baisse de 10% sur une semaine. Et le fameux taux de reproduction, l'indicateur R qu'on regarde de près depuis maintenant plusieurs mois, descend encore à 0,90. Où en est-on, Emmanuel Ducrot? Faut-il alléger les restrictions? On sent qu'il y a quand même une forme de pression qui est en train de s'exercer sur le gouvernement, notamment de la part du monde de la culture.
Évidemment qu'il y a une pression. Évidemment que je comprends que le gouvernement ne soit pas pressé d'agir. Le virus nous a habitués depuis son surgissement dans nos vies à nous prendre un revers systématiquement. Donc je conçois qu'on attende que les tendances soient un petit peu plus fermes avant de réagir.
Oui.
Alors pour le monde de la culture, on voit qu'effectivement les choses progressent, que Roselyne Bachelot commence à dire que oui, on va étudier des solutions pour refaire des concerts, etc.
Et une première annonce qui est tombée il y a quelques instants concernant les festivals d'été. Mmh. Ils pourront se tenir cet été, c'est une nouvelle importante, en configuration assise avec une limite, nous dit-on, de 5000 spectateurs, mais assis.
Mais oui, souvent on est dehors.
Je ne sais pas comment on va organiser ça, parce qu'un festival d'été, vous voyez, les vieilles charrues ou Solid Days en version assis à 5000, ça risque d'être compliqué. Mais bon, c'est un premier signal de
ça va changer
de
d'ambiance.
Desserrage de vis.
Mais bon, je pense que le monde de la culture qui ronge son frein et puis qui souffre va être content de pouvoir recommencer à travailler, même en conditions dégradées. Va se poser la question des restaurants. Ça, je pense qu'on n'y est vraiment, vraiment pas encore. On sait que c'est quand même le lieu de contamination par excellence.
Oui.
Et ça, pour le coup, je pense que ce n'est pas pour tout de suite. Alors après, il y a la question du couvre-feu. Est-ce que c'est un couvercle qu'on lève ou est-ce qu'on attend encore un peu? Voilà. Dans la mesure où les restaurants et les bars sont fermés, peut-être que ce n'est pas une urgence.
Michel Cotta.
Olivier Véran, tout à l'heure, quand j'entrais dans ce studio, disait qu'il ne fallait sûrement pas, vraiment pas déconfiner.
Ne pas lever les contraintes trop tôt, c'est ce qu'il a dit.
Ne pas lever les contraintes parce que, sur l'ignorance du vaccin, du variant anglais. C'est-à-dire qu'on voit très bien, alors on montre les courbes, on voit très bien que le variant Covid tel qu'on connaît décroît, mais le problème est de savoir ce que va faire le variant anglais.
Vous entendez la petite musique depuis plusieurs jours. Il y a des éminents épidémiologistes, des grands professeurs, le professeur Annet par exemple, qui disait ce matin, c'est vrai qu'on a peut-être surestimé la dangerosité et la contagiosité du variant anglais. On s'est peut-être trompé, ils disent en somme les scientifiques.
Oui,
alors il faut rester évidemment prudent, mais ça serait une bonne nouvelle. Ça serait une bonne nouvelle au demeurant, Éric Scholl. Faut-il revoir les restrictions? Est-ce que c'est le bon moment?
Pour le moment, absolument pas. Pour la bonne raison que tous les scientifiques ne savent pas, ils sont eux-mêmes très surpris. Et donc à partir du moment où on ne comprend pas qu'on est une situation qui certes est en amélioration, mais on est quand même sur des plateaux élevés.
Oui.
Et quand vous regardez quand même ce qui se passe dans les hôpitaux, on est quand même à un niveau très élevé. Le stress dans les salles de réanimation, on est quand même encore à
66%. C'est fou quand même d'avoir baissé 10% le niveau de contamination
en
quelques jours.
Les morts, c'est un truc reste très important.
Mais rendez-vous compte, on était à 24 000 contaminations jour. Au début de la semaine, on est à moins de 18 000 aujourd'hui. C'est assez mystérieux quand même ce qui se passe autour de ce virus.
Et qu'on comprenne, et qui est très dur à accepter pour nous tous, c'est qu'on ne sait pas. Et qu'en fait, on apprend sans arrêt des choses nouvelles, on doit remettre à jour nos logiciels quasiment quotidiennement, c'est extrêmement déstabilisant pour tout le monde. Et on sait aussi que les estimations qui ont été faites en Grande-Bretagne sur des modèles mathématiques ont été faites sur une période où les pubs n'étaient pas fermés. Donc ça a probablement faussé la lecture mathématique. On n'était pas sur des situations comparables. Donc on s'est peut-être un peu inquiété tôt. Ça ne veut pas dire qu'on est... ça ne préjuge pas de la suite.
Ouais. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'il y a une mobilisation importante. J'entendais le maire de Blois tout à l'heure sur une chaîne info qui milite pour ouvrir ces lieux culturels, le château de Blois, par exemple. Et on sent qu'il y a quand même une mobilisation et un lobbying important du monde de la culture.
Et ça va être de plus en plus chaque semaine.
D'ailleurs, les Français sont en train de se retourner. Je regardais le dernier sondage ELAB paru hier. 7 Français sur 10 sont aujourd'hui favorables à la réouverture des musées. 74% au total.
Oui. Alors peut-être que ce n'est pas une mauvaise idée. Il va falloir quand même qu'on se pose des questions techniques. Par exemple, on sait que les ventilations, c'est quelque chose d'absolument crucial dans la circulation des virus. Et on l'a très bien étudié sur les trains de la SNCF, par exemple. On sait très, très bien comment ça marche et on sait très bien ce qu'il faut faire pour que les ventilations soient efficaces. Alors peut-être que ça va en passer par là. Les musées, c'est quand même généralement des grands espaces. C'est ventilé. On peut probablement faire des jauges pour que ça marche, mais ça ne semble pas être des endroits de contamination. Et peut-être que ça ferait du bien à tout le monde d'avoir ces échappatoires-là, oui, dans nos vies contraintes.
Oui, de loisirs, de culture. Oui, mais... Et c'est vrai qu'il y a le même argument qui revient tout le temps quand vous regardez, ouais, les photos et quand vous prenez le métro ou les transports en commun qui sont bondés, les musées avec les grands espaces et les circuits pour les visiteurs qu'ils ont mis en place avec toutes les précautions qui vont avec, c'est vrai qu'on se dit, a priori, ça pourrait rouvrir.
Vous parlez des maires qui disent il faut davantage mais il faut davantage ouvrir, mais il y a aussi beaucoup de maires qui disent, et on les entend, hein, le maire de Metz, qui disent, il faut confiner.
Oui.
Confiner tout de suite.
Pour être tout à fait franc, il y a deux zones.
Ah ben, non.
Il y a la Moselle, et puis
oui,
il y a...
Oui, mais alors, vous voyez très bien que...
Il y a Dunkerque.
Distinguer les zones, moi je veux bien qu'on distingue entre les Alpes-Maritimes, qui sont au maximum, et le Var, qui est à côté, mais je peux vous dire que c'est difficile de pas passer de l'un à l'autre.
Oui.
Donc,
oui,
je crois que la situation actuelle est... peut-être difficile, c'est vrai que le couvre-feu à 6 heures, ça n'amuse personne, mais c'est peut-être le moins possible, et en attendant, on peut aller lentement, on peut se donner le temps,
c'est vrai
en
que
tout cas.
Ça pourrait être d'ailleurs un retour à la discussion région par région, territoire par territoire, avec des territoires qui sont plus ou moins
Et avec des maires qui ne sont jamais d'accord. Avec des maires qui ne sont jamais d'accord.
Rouvrir ici un musée quand la contamination est faible, ici le laisser fermer quand la contamination est importante, mais on sent quand même que les blocs sont en train de bouger, Eric Scholl.
À condition qu'on commence à comprendre davantage les modèles, les fameux modèles. Modèles, pour la moment, on ne comprend pas. Les modèles, ils annoncent autre chose que ce qui est en train de se passer. Mmh. Donc, il faut qu'on ait la certitude que soit les modèles sont faux, qu'il y a une autre réalité. Pour le moment, réellement, on ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Ce qui veut dire qu'on n'est pas à l'abri d'une remontée très soudaine de l'épidémie. Si c'est le cas, on a quand même intérêt à être à le niveau actuel. Mais si on rouvrait tout aujourd'hui, on aggraverait largement la situation si on avait cette remontée de l'épidémie.
C'est vrai qu'il y a des mystères. J'évoquais ici dans le studio hier une grande étude que j'ai regardée sur l'Inde, par exemple. L'Inde, où en quelques jours, on est passé de 100 000 contaminations, alors qu'il n'y a aucune restriction là-bas et très peu de vaccins, à moins de 10 000. Et personne ne comprend pourquoi. Personne. C'est un mystère quand même.
Mais oui, parce que je pense que toutes les sciences n'ont pas encore épuisé le sujet de ce virus. On sait par exemple que la météo a probablement des effets sur ce virus qu'on ne maîtrise pas très bien.
Oui. Alors on a un peu entendu tout et son contraire.
Mais
on a dit que le froid stimulait le virus et puis on a dit l'inverse.
Eh bien voilà, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi le virus flambe à Manaus au Brésil alors qu'il est censé être inactivé par la chaleur. Enfin, il y a quand même vraiment, vraiment beaucoup de mystères encore de tout ça. Et ça doit vraiment nous inciter à la plus grande prudence. Et il faut quand même rappeler que la donne va aussi changer dans les prochaines semaines et dans les prochains mois avec la vaccination. Mmh. Et il faut quand même qu'on se rappelle qu'on a ça.
Et avec
la
météo. Vous avez vu, il commence à faire très beau. Ça veut dire que les gens vont se retrouver dehors et moins à l'intérieur, ce qui peut être un facteur de moindre contamination.
Mais,
Michel Cotard.
Il y a tellement de notes sur cette gamme. Parce que pendant qu'on est en train de parler, effectivement, de...
c'est une belle analogie.
Levée partielle de... Il y a en même temps, vous avez tous entendu parler de ce collectif de médecins qui se prononce pour le Covid zéro. Et le Covid zéro, il faudrait mettre la terre sous cloche pour que ça marche pendant 3 semaines. Et encore, on n'aurait pas de certitude. Donc au fond, on a toutes les notes de la gamme. Ceux qui veulent tout libérer et ceux qui, au contraire, veulent tout mettre sous une chape de plomb.
Oui.
C'est vrai que pour un pouvoir politique, c'est quand même une épreuve particulière.
En tout cas, il y en a deux qui se frottent les mains. C'est les deux têtes de l'exécutif, Emmanuel Macron et Jean Castex, qui remontent assez nettement dans les opinions de sondage. Hein. 50% d'opinions favorables pour le président de la République, 48% pour son Premier ministre, selon le dernier baromètre IFOP, publié par nos collègues de Paris Match. C'est une sacrée tendance à la hausse. Ce choix de non-confinement, ça profite quand même... à l'exécutif, Éric Scholl.
Effectivement, c'est le choix du président de la République, c'était le 29 janvier, je crois, de choisir finalement de refuser le confinement et donc de choisir cet entre-deux où on est avec ce couvre-feu à 18h, où on a quand même un certain degré de liberté, mais qui n'est pas total, puisqu'on est là en train de discuter comment on pourrait avoir levé davantage de restrictions. Et on voit que ça lui profite, parce qu'à ce moment-là, il avait pris cette décision, et on en avait discuté sur ce plateau, contre l'avis des scientifiques. Donc c'était une décision politique. On se pensait, moi le premier, je me disais, la semaine prochaine, on sera en confinement. On s'aperçoit que pour le moment, ça tient.
Ouais.
Et tant que ça tient, on peut mettre ça évidemment à son crédit.
Mais là, aujourd'hui, on assiste quand même à un point de bascule, hein, parce qu'avec la réouverture des festivals, c'est loin, c'est l'été, mais c'est une première, c'est la première fois qu'on a un cap, qu'on a un horizon.
Alors, encore une fois, les horizons dans la crise Covid se sont souvent déplacés. Oui. Mais alors, ce qu'on peut dire là maintenant, c'est que entre...
En tout cas, c'est une espérance.
C'est une espérance. Là, on est dans un compromis entre la restriction, clairement, de nos possibilités de circulation. Mais en même temps, les Français ne sont pas interdits de partir en vacances, de partir même hors des frontières. Il n'y a pas de consigne. On est aussi dans un moment où on essaye quand même de sauvegarder l'économie autant qu'on peut. Et peut-être que pour une fois, ce fameux en même temps réussit à Emmanuel Macron, ce qui est quand même un peu nouveau, parce que jusqu'à maintenant, ça faisait un peu mi-chèvre, mi-chou, et là, ça semble marcher.
Alors bien sûr, ce chiffre formidable, on l'a, mais il y a des fois où on ne le garde pas. Hein. Parfois, on a 50%, parce que oui, on a fait le geste qu'il fallait au moment où il fallait, mais imaginez qu'il y a un pic de remontée.
Non, mais c'est un pari,
COVID,
c'est ce qu'on dit depuis le début.
Le
président de la République a pris un pari, s'il sort victorieux de
ce pari... Il a pris une décision,
pari,
mettons. Peut-être que d'ailleurs, ça correspond à quelque chose dans l'esprit des Français. Il y a eu quelqu'un qui a dit non à la communauté scientifique à un moment donné.
Ce qu'il se dit dans l'entourage du président de la République, il se dit qu'il a retrouvé ce qui a fait son succès des débuts, c'est-à-dire l'instinct. Il a décidé à l'instinct.
Et il a décidé aussi seul.
J'espère que son instinct ne se trompe pas.
Bien. Mais pour le moment, ça a permis à la France, aux Français, de gagner du temps sur le confinement. Et ce temps-là, c'est un vrai gain, puisque ça a permis à l'économie de continuer à fonctionner sans que, pour le moment, l'épidémie reste à peu près sous contrôle. Néanmoins, les menaces, elle est évidemment toujours là.
Alors, il y a un élément assez pessimiste, on terminera là-dessus, c'est que dans ces sondages, il y a un Français sur cinq qui pense qu'il ne retrouvera jamais une vie normale.
Moi, je pense qu'on retrouvera des vies normales, mais que ça va prendre du temps.
Oui.
Et qu'il va falloir aussi, là, dès maintenant qu'on commence tous à apprendre à vivre avec. C'est-à-dire pas par intermittence comme on le fait maintenant, mais réellement avec. Et ça veut dire que, par exemple, pour la réouverture des festivals, des salles de concert et de cinéma, il va falloir mettre en place des nouveaux protocoles. Et ça veut dire qu'il faut commencer tout de suite à penser comment on va faire ça techniquement et scientifiquement. Il faut qu'on commence à soutenir la recherche en France pour des processus de tests ultra rapides, salivaires notamment, avec des infrastructures légères, avec des portables, avec des...
C'est vrai qu'on en parle de plus en plus, oui.
Et ça, toutes les biotech du secteur disent, on a fait des efforts sur les vaccins, ça n'a pas très bien marché. Il ne faut pas oublier les traitements, parce qu'il y a des gens qui ne pourront pas se faire vacciner, qu'il va falloir traiter, et il faut penser à ça. Toute l'infrastructure de test, parce qu'il va falloir tester massivement la population dans les années à venir, probablement.
Bien.
Et donc ça, il faut qu'on ait nos solutions.
Eh bien, merci à tous les trois d'avoir animé à mes côtés les grandes voix du jeudi. Merci à vous.
Europe 1, écoutez le monde changer.